Il nous avait promis qu'il viendrait et il est de retour. Bonjour Philippe Nonni, d'abord.
Bonjour Philippe Subercase.
Je disais, alors Diego Arbal, malheureusement, n'est pas encore
Il n'est
là
pas
cette
disponible,
semaine.
non, cette semaine, voilà.
Mais bien sûr, on le retrouve bon pied, bon œil dès la semaine prochaine,
Dès la
c'est
semaine
promis.
prochaine, tout à fait.
Nous sommes, je disais que voilà, il a promis de revenir en deuxième semaine.
En
Il est là
deuxième semaine.
Par téléphone et d'ailleurs, on le remercie. Je vous laisse bien sûr le soin de le présenter. Hein.
De le présenter, tout à fait. Donc, on avait commencé notre incursion avec lui la semaine dernière. Donc, on fait des incursions de temps en temps dans le monde de la littérature politique avec l'un de nos essayistes. Je disais la semaine dernière qu'il a un regard donc particulièrement acéré sur la situation politique intérieure française et notamment sur la crise agricole que traverse pas que la France en ce moment. On voit bien que c'est l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne qui sont touchés.
Et peut-être même aujourd'hui, on s'aperçoit que à quelques semaines des élections européennes, l'Europe prend un enjeu terrible et même est presque menacé de son utilité. La guerre était aux portes de l'Europe.
Tout à fait.
L'Europe était...
Mais on va en discuter.
On va en discuter, bien
on
sûr.
On va en discuter
voilà.
de ça. Donc, on le rappelle, il est l'auteur du remarquable et très remarqué, je le disais la semaine passée, mais je le répète cette semaine, « Petit traité de l'amour à l'usage des connards, une approche économique de l'amour aux éditions L'Harmattan ». Donc, ne vous laissez pas abuser et ne vous fiez pas effectivement au titre qui peut paraître provocateur. Derrière ce titre, il y a un véritable travail universitaire, donc par un maître de conférence qui est docteur en sciences sociales. Je parle bien entendu de Bertrand Fauré. Bonjour Bertrand, merci de nous accompagner à nouveau cette semaine.
Bonjour Philippe, et merci à vous de votre invitation. Toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Alors, on fait une deuxième émission parce qu'en fait, on se rend compte, à vous avoir à l'antenne, que le sujet qu'on aborde est quand même un sujet qui mérite effectivement deux émissions. Donc, ce qu'on disait la semaine passée, c'est qu'on reprendrait cette semaine avec vous cette émission donc sur ce thème bien particulier, c'est-à-dire que vous avez construit une grille de lecture donc de l'amour, c'est-à-dire que vous avez eu une approche économique de l'amour pour analyser les mouvements qui, à un moment donné, politiques ou autres, ou sociaux, qui peuvent se faire donc à travers effectivement un manque de reconnaissance. Mais, Philippe Subercase.
Oui, très rapidement, c'est vrai que si je me souviens des émissions où vous étiez venu, où on avait parlé des Gilets jaunes, en fait ce livre, vous étiez aperçu tout simplement qu'il y a une échelle de graduation pour tout. Pour tout, même pour la douleur. Souvent, quand on va aux urgences, à l'hôpital, on vous dit sur 1 à 10. Et vous étiez aperçu qu'il n'y avait aucune échelle sur l'amour. C'est vrai, si j'aime quelqu'un, sur une échelle de 1 à 10, tu es plutôt haut. Et vous étiez parti sur cette thèse-là et qui a fait découler votre argumentaire sur tout ça. Et
sur ce livre.
Sur ce livre et sur cette thèse. C'est comme ça qu'on appelle sur un essai.
Alors là c'est un essai. C'est un travail en fait universitaire. Qui est mis dans le domaine public et qui peut être après repris et abondé, c'est le thème d'un chercheur, comme l'est Bertrand Fauré. Un chercheur, il apporte à la communauté, enfin vous me reprenez Bertrand Fauré si je me trompe, il apporte à la communauté, d'autres reprennent son travail, le poursuivent, l'approfondissent, l'amendent, et c'est tout le bonheur de cette recherche. Et là, cette recherche... allez-y Bertrand, oui.
Comme je dis souvent aux doctorants, une recherche, c'est soit montrer qu'il y avait un angle mort et y répondre, donc quelque chose qui n'était pas dit et on le montre, ou montrer qu'il y avait quelque chose qui était contradictoire dans ce qui était dit et on résout la contradiction. Et donc effectivement, là, mes recherches, elles avaient commencé pas spécialement avec les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes illustrent très bien un angle mort des recherches en sciences sociales, et que mon travail essayait d'éclairer l'angle mort que mettaient en évidence les Gilets jaunes. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que personne n'avait vu venir cette crise et que personne n'avait pu comprendre sur le coup pourquoi elle continuait alors qu'ils avaient eu gain de cause. Et donc mon analyse, c'était qu'en fait, la variable qui n'était pas prise en compte, c'était l'amour. Et alors pour rebondir un peu sur ce que disait Philippe, dans mon livre, non seulement j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment de mesure de l'amour, alors enfin si, il y a l'amour, on mesure l'amour mais de manière déconnectée, l'amour amoureux, l'amour religieux éventuellement, mais il n'y a pas une mesure universelle. Et moi, ce que je m'étais attaché à faire dans le livre, c'était une mesure des variations d'amour. Et donc, ce qu'on pouvait mettre, ce n'était pas une mesure absolue de l'amour, mais est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Et dans le cas des Gilets jaunes, ce qui permettait de comprendre la poursuite du mouvement, c'est qu'ils avaient immensément grandi en amour avec ce mouvement. Avec les Gilets jaunes, c'était des gens, une catégorie, enfin un regroupement qui était isolé, qui, comment dire, il n'y avait pas d'identité, Gilets jaunes. Et là, ils ont trouvé, hein, ils parlaient de famille, la famille jeune, et puis, on en parlait la semaine dernière, à Tarbes notamment, sur le péage, il y avait eu toute une vraie vie sociale qui s'était nouée autour du péage, avec quasiment une boîte de nuit, des éclairages, de la musique, des douches, il y avait eu un mariage, bon c'était un faux mariage, mais je crois que maintenant ils sont séparés, mais voilà, il y avait eu beaucoup d'amour. Les agriculteurs, rien à voir. C'est, là pour le coup, il n'y a pas, comment dire, l'approche par l'amour n'apporte pas, pour le coup, grand-chose par rapport à une grille d'analyse traditionnelle, puisque, contrairement aux Gilets jaunes, c'est une crise qu'on a vu venir, c'est une crise qu'on sait résoudre, qui est en train de se résoudre petit pas par petit pas en France. C'est une crise qui reviendra dans 4-5 ans, parce qu'on connaît les évolutions, on sait que ça va continuer à être difficile. Et donc là, c'est là-dessus qu'on en était arrivé la semaine dernière. Là où je pense que ma grille d'analyse peut apporter quelque chose dans ce cadre-là, c'est pour comprendre les raisons de leur détresse, de leur souffrance. Et on le disait la semaine dernière, les Gilets jaunes ne se suicidaient pas. Les agriculteurs, il y en a un par an en France, mais partout en Europe, qui se suicide.
Un par jour, qui se suicide. Alors, justement, Bertrand Fauré, ce qui serait intéressant là-dessus, c'est d'essayer de comprendre, parce que bon, vous disiez, la crise des Gilets jaunes, on n'a pas vu venir. La crise agricole, peut-être qu'on l'a vu venir, mais... Oui. Pas forcément, effectivement, de manière très claire, parce qu'on voit, bon, ça a éclaté, effectivement, ça a éclaté quand même assez soudainement. Hein. On a eu ici, donc, un agriculteur hein, sur la Haute-Garonne qui a décidé de bloquer la 64, et c'est ça qui a déclenché le mouvement partout en France, sachant que c'est un mouvement européen. Hein. Ça, c'est un des points sur lesquels je voudrais qu'on en parle après. Moi, ce que je souhaiterais que vous nous disiez, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir pour essayer de comprendre, d'anticiper ces mouvements agricoles? Et comment vous verriez l'utilisation de votre grille de lecture de l'amour pour tenter à l'avenir de repérer ces mouvements agricoles?
Alors voilà, donc c'est je pense que si on l'avait parfaitement vu venir, c'est ça. Et si on prend le livre de Houellebecq, Sérotonine, dont je vous parlais la semaine dernière, oui. Donc il a écrit il y a 3-4 ans, il a décrit mot pour mot le déroulé de ce qui se passe aujourd'hui.
D'accord.
Y compris les blocages des autoroutes, y compris les suicides. Donc les causes du mal-être et, donc on va y venir au niveau européen, pour le coup là, alors que les Gilets jaunes étaient très franco-français, là c'est un malaise qui est européen et qui en fait, il n'est pas culturel. Il est dû à une situation, enfin c'est mon analyse, je ne suis pas spécialiste non plus de la question, mais c'est ce que me permet de dire mon cadre d'analyse, il est dû à une situation qui est toxique partout en Europe, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de protectionnisme, où la concurrence des pays à très faible coût de main-d'œuvre est globalement bloquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre en Europe des tomates, enfin des produits importés d'Ukraine, enfin bon, sûrement l'Ukraine non, mais importés avec des prix très bas. Le consommateur s'y retrouverait éventuellement, il y a beaucoup d'inflation en ce moment, mais en tout cas, c'est pas possible. Et donc, et ça c'est vrai pour toute l'Europe, tous les agriculteurs européens sont protégés par des mesures protectionnistes qui fait que bon bah ils peuvent garder des prix artificiellement élevés par rapport à ce qui se passerait si on faisait vraiment venir des produits à bas coût d'ailleurs. Et donc comment vu que c'est du protectionnisme que les prix ne jouent pas leur rôle d'équilibre de l'offre et la demande, l'équilibre de l'offre et la demande, ça se joue au niveau européen, c'est les pays, c'est les bureaucrates hein, qui décident en gros, bon ben là on laisse rentrer ça, là on régule tel prix sur tel secteur, et donc ça veut dire, et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on se retrouve dans une situation terrible à mon avis, pour des gens qui aiment leur métier, comme c'est le cas là, normalement des agriculteurs, puisque c'est une transmission, enfin c'est une passion, une situation où les efforts qu'ils font qui normalement devrait se traduire par une rémunération supplémentaire parce que les consommateurs sont satisfaits, parce qu'ils vendent bien leurs produits. C'est super. Enfin, quand vous faites, vous vous appliquez à faire un produit et les consommateurs vous disent qu'ils sont contents, ils sont prêts à payer cher parce qu'ils sont satisfaits. Et là, vous vous retrouvez, vous avez joué le jeu. Et pour une raison X ou Y d'équilibre au niveau européen, vous pouvez, le produit qui, si le marché était libre, se vendrait bien, là, il ne se vend pas mieux que les autres puisque les prix sont faussés. Et vous vous retrouvez avec le voisin qui, lui, a joué, pas du tout joué le jeu, qui se retrouve avec des subventions supérieures aux vôtres. Enfin, vous, vous n'avez à la limite pas parce que vous avez joué le jeu, donc vos produits devraient bien se passer. Et donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est même plus terrible que c'est-à-dire, à la limite, faire un métier de passion et avoir du mal à, des fois, à joindre les deux bouts à la fin du mois, c'est psychologiquement, c'est pas. Tant qu'il y a un lien entre ce que vous faites et votre rémunération, ok. Mais là, il n'y en a plus.
Et vous pensez que c'est ça, que c'est cette absence de lien, que ce lien, en fait, quelque part, c'est ce rapport d'amour qu'il y aurait entre, d'un côté, la reconnaissance qu'enverraient les personnes, donc à travers effectivement l'achat donc des produits agricoles, comme vous le disiez tout à l'heure, dans lesquels les agriculteurs mettent de l'amour, parce qu'on le voit bien, les agriculteurs aiment leur terre, aiment ce qu'ils font, aiment leurs animaux. Enfin, alors on va peut-être trouver un agriculteur ou une agricultrice qui va maltraiter ses animaux, mais ça va être comme une personne qui va maltraiter son chien ou son chat à la maison. Mais on voit bien effectivement qu'il y a une véritable relation d'amour. Ça veut dire aujourd'hui, à votre sens, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire, Bertrand Fauré, il faudrait rétablir ce lien d'amour, et si oui, comment ?
Ben, en fait, il y est le lien d'amour. Ce qu'il faut rétablir, c'est le lien entre l'amour qu'ils mettent dans leur travail et la reconnaissance ou la rétribution qu'ils en ont. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins ce qu'essayent de faire tous les gouvernements dans tous les pays. C'est-à-dire, finalement, ça se joue au cas par cas. Il faut regarder filière par filière, et donc c'est tout le problème des économies régulées et du protectionnisme. C'est-à-dire que là où normalement c'est le marché et le prix qui devraient faire en sorte que les choses s'équilibrent, là il faut voir cas par cas comment faire en sorte d'avoir des mécanismes incitatifs pas trop faussés, où l'agriculteur ou l'éleveur qui joue le jeu du marché, entre guillemets, de qu'est-ce qui va plaire aux gens. Cette année, je développe des petits de légumes parce que c'est la tendance. Enfin, c'est un business. Je ne suis pas professeur, enfin, je ne suis pas agriculteur, mais normalement, l'idée, c'est que les gens soient contents de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'un agriculteur ne puisse pas se retrouver pendant plusieurs années avoir joué le jeu de la qualité et de se retrouver avec une performance qui est identique, voire moindre, que le voisin qui n'a pas joué le jeu, mais qui retouche des subventions. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre ça, et tout le monde peut comprendre pourquoi la situation met les agriculteurs européens, quasiment tous dans cette situation. Et donc la solution, c'est au cas par cas, c'est vraiment essayer de comprendre filière par filière comment faire un lien entre l'amour qu'ils mettent dans leur boulot et la reconnaissance, la rétribution qu'ils en ont. C'est ça qui permet de dire ma grille d'analyse.
Et alors, par rapport à votre grille d'analyse, donc tout à l'heure, Philippe Subercase l'évoquait, bon, il va y avoir les élections européennes au mois de juin 2024. Ouais. Quel enjeu vous voyez pour les agriculteurs aujourd'hui en particulier, hein, on va parler d'eux puisque c'est d'eux aujourd'hui que l'on parle, donc au travers aussi de votre livre Un petit traité de l'amour à l'usage des connards, une approche économique de l'amour aux éditions L'Harmattan. Quel enjeu aujourd'hui vous voyez pour les agriculteurs au niveau de ces élections européennes? Qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre à votre avis?
Bien, alors bon, déjà, la crise, je pense là, au niveau français en tout cas, va être un peu résorbée au moment des élections, donc du coup, je ne sais pas du tout comment cet enjeu va être mis sur le papier, sachant que donc, les agriculteurs qui représentaient 95% de la population il n'y a pas si longtemps, enfin, maintenant, pas grand-chose, donc en termes de voix et d'électorat, c'est pas énorme. L'enjeu, c'est de continuer le paradoxe. C'est ça, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de continuer le protectionnisme. Parce que si on ouvre l'Europe, il n'y a plus d'agriculture européenne. Mmh.
Et alors, par contre, quand vous dites continuer le paradoxe, parce que ça, c'est un élément intéressant, je trouve, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a...
J'ai pas tout à fait fini, mais ouais. C'est-à-dire qu'il faut continuer le protectionnisme. Et donc, qui dit protectionnisme, dit prix faussé. Donc, dit continuation de la situation toxique pour eux. C'est ça, continuer le paradoxe, c'est ça. C'est, on n'a pas le choix que de continuer dans cette situation où... on met en tension ce lien entre le travail et la récompense du travail.
Parce que, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe également au travers de ce que vous dites bon, tout à l'heure, vous le disiez, hein, les agriculteurs aujourd'hui représentent à peu près 100 000, un peu plus de 100 000 agriculteurs donc, en France, hein, 100 120 000, j'ai plus le chiffre exact en tête. On voit donc qu'ils représentent une part très faible de la population, hein, par rapport effectivement à ce que ça pouvait être au début du XXe siècle. Pourtant, lorsqu'ils vont manifester dans les rues, ça a un impact très fort au niveau des médias. Prenez par exemple les manifestations pour les retraites, hein, où il y avait beaucoup plus effectivement de monde dans les rues, hein, il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues, ça n'avait pas le même impact et la même force. Comment vous expliquez ce paradoxe-là ?
Eh bien, justement, c'est ce que je dis. C'est un métier d'amour, et l'attachement des Français à leurs agriculteurs, elle est viscérale. Je dirais, encore une fois, je pense qu'on a une image qui est superficiellement faussée par ce gap, enfin cet écart entre les écolos des villes et les vrais gens qui vivent dans la nature, à savoir les agriculteurs. Donc il y a une sorte d'incompréhension, de dialogue de sourds, de « je t'aime moi non plus » entre ces deux catégories. Mais la vérité, c'est que la France, on est tous des petits-fils d'agriculteurs, on aime nos agriculteurs, on ne le sait pas forcément, mais c'est viscéral. On a tous des agriculteurs dans notre famille, on a tous fait des... enfin pas tous, je ne sais pas, mais... la ferme fait partie de notre imaginaire, on les connaît, il y a un vocabulaire qu'on connaît, les gilets jaunes, on ne connaissait pas. C'était des gens, c'était une catégorie, c'est pas une classe, une identité, on ne sait pas comment... on pouvait les appeler que les gilets jaunes. Les agriculteurs, on sait ce que c'est.
On employait avant le terme de paysan. Est-ce que ça, vous trouvez c'est un terme aujourd'hui qui est un terme d'amour? Parce qu'aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de paysan, c'est péjoratif. C'est plus un terme
paysan, c'est très intéressant, paysan, parce que paysan, c'est la même étymologie que pays et que paysage. Et donc, paysage, le mot paysage, ça veut dire un environnement naturel façonné par l'homme. Donc la France est un pays qui a été façonné par son agriculture, et il n'y a pas un mètre carré en France, peut-être dans les Cévennes éventuellement et dans les montagnes, qui ne soit pas foulé au moins une fois par an, par le pied de l'homme. Nous avons domestiqué tout notre territoire, et ce sont nos parents, nos arrière-grands-parents qui ont fait ça, puisque nous sommes tous des petits descendants d'agriculteurs. Donc il y a une connaissance, une relation intime, qui est un peu, distendue en ce moment entre les Français et leurs agriculteurs. Chaque fois qu'un Français met un pied dehors, il marche dans les traces de ses ancêtres agriculteurs, quoi. C'est ça qu'on perçoit pas forcément, mais on a tous un grand-père qui faisait du braconnage. Enfin, j'exagère, c'est pas tous, mais on a des histoires familiales de gens qui ont façonné, qui sont des paysans.
Qui sont des paysans. Alors, on a deux mondes là, qui s'affrontent. Hein, aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, hein, ce que vous nommiez donc les écolos de ville et puis les agriculteurs. Chacun vit avec ses certitudes. Chacun vit avec la certitude d'avoir raison.
Disons que les agriculteurs, ils ont raison. C'est eux qui travaillent. C'est eux qui sont le nez. Les écolos des villes, ils ont raison sur le papier. Enfin, bon, je pense que je fais plutôt partie des gens des villes, mais je respecte. J'ai de la famille agriculteur. Je ne me permets pas. Ce qui est choquant, je trouve, c'est de voir des gens qui vivent en ville, qui font des leçons de morale aux agriculteurs. Et.
Peut-être sans connaître le travail, vous voulez dire sans connaître le travail, sans connaître l'approche, sans savoir comment se passe un vélage, un agnelage, sans savoir comment on va cultiver une terre, sans savoir comment on va nourrir des animaux, etc., les soigner.
Et oui, c'est-à-dire, je prends l'exemple du glyphosate. Alors, sur le papier, l'écolo des villes, il dit c'est pas bien. Ça pollue la terre, on en met trop, il faut voter des lois pour l'interdire. Ok. Sur le papier aussi, l'écolo des villes, il a raison de dire à l'agriculteur, mais en plus, c'est pas bon pour votre santé, vous allez vous abîmer les poumons. On fait ça pour vous. Alors ça, il n'y a rien de pire. L'agriculteur, lui, il est au quotidien dans son travail, il voit que arracher les mauvaises herbes à la main, ça fait mal au dos. Il voit que pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, enfin, que ce ne soit pas envahi par les herbes, les méthodes écolo, il les connaît pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui marche pas forcément à tous les coups. Lui, ce qu'il voit, c'est que le glyphosate, c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé de manière assez rationnelle et qui est efficace. Quand il en met autour de son champ, après, derrière, le champ, il est nickel. Et ça lui prend une heure et ça lui prend pas une journée. Et donc, je comprends tout à fait. L'agriculteur qui est là, mais... Laissez-moi faire mon boulot, vous êtes en ville, faites votre boulot. Moi, si je passe une heure au lieu d'une journée, il n'y a que moi qui peux savoir si ça me va.
Donc est-ce que vous pensez que ce manque de reconnaissance et de méconnaissance presque quelque part du travail...
Ah oui, c'est du mépris même. Voilà. C'est du mépris, moi je trouve.
D'accord. D'accord.
Oui. Pourtant, je suis quelqu'un des villes, mais je trouve que... je vais rester dans ma grille d'analyse. En termes d'amour, c'est terrible là, de connaître son métier et d'entendre des gens qui ne sont pas concernés
et qui ne connaissent pas le
de morale, qui vous font des leçons de morale. C'est ça qui se passe. Donc là, là, il y a une cause de l'énergie. Je pense que, alors oui, tiens, en discutant avec vous, dans cette colère des agriculteurs, il y a peut-être cette composante. Arrêtez de nous dire notre métier.
Parce que quelque part, ne pas reconnaître une personne dans sa capacité à connaître un métier, c'est une façon c'est un manque d'amour flagrant, quelque part.
Ouais.
Le manque de reconnaissance
est
un manque d'amour, quelque part. La reconnaissance, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre, un petit traité de
là,
l'amour.
C'est pire, hein. C'est pire que de la reconnaissance, c'est que du manque de reconnaissance. Les Gilets jaunes, on pouvait dire, bon, on est invisible, on nous voit pas, on existe. Écoutez, on existe. Les agriculteurs, c'est encore pire, c'est-à-dire que personne ne nie leur existence, mais tout le monde parle à leur place. Et ça, je crois que c'est, en termes d'énervement, en termes de cause de colère, ça joue beaucoup.
Ça joue beaucoup. On va rappeler le titre de votre ouvrage, donc Bertrand Fauré, Petit traité de l'amour à l'usage des connards, une approche économique de l'amour aux éditions L'Harmattan. Je rappelle à nouveau que le titre n'est absolument en rien provocateur, même s'il a l'air d'être provocateur, tout simplement parce que c'est un véritable travail universitaire qui a été mené. Vous êtes, je le rappelle, docteur donc en sciences sociales, vous êtes maître de conférences donc ici à l'IUT donc à Tarbes, vous avez construit une grille de lecture, et c'est pour ça que je recommande à nouveau aux lectrices et aux lecteurs, donc votre ouvrage, je le recommande pour effectivement découvrir cette grille de lecture, qui est originale, comme le répétait tout à l'heure Philippe Subercase, il y a des grilles de lecture pour tout, il y a des échelles pour tout, pour les mètres, pour les kilomètres, etc. Il n'y a pas d'échelle, effectivement, pour l'amour. Et c'est ce que vous avez tenté de construire en faisant donc une analyse du mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on refait appel à vous, effectivement, par rapport à ces crises. Et je pense qu'il y aura d'autres crises dans notre pays. Je veux dire, ça, c'est inévitable.
Ah ben, oui.
Et on ne les connaît pas encore, on les découvrira ensemble.
Il y a la crise de l'école. Il y a la crise de l'école, où là, que je connais peut-être mieux que les celle des agriculteurs. Juste pour préciser, il y en a des grilles de mesure de l'amour, mais c'est des grilles de mesure cloisonnées. On mesure l'amour amoureux, on mesure l'amour religieux, mais il n'y a pas une grille universelle. Et il n'y a pas une grille des variations.
Une variation de l'amour, voilà, pour essayer de comprendre. Et là, c'est ce que vous nous expliquez en disant, effectivement, quand on parle de la place des agriculteurs, je pense qu'en termes de grille de l'amour, là, on est même en dessous de zéro, là, je pense. On pourrait même faire du moins. Bon, en tous les cas, on tient encore une fois à vous remercier, Bertrand Fauré, de nous avoir accompagnés.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, on rappelle le titre de votre ouvrage qu'on recommande à nouveau donc, aux éditrices et aux éditeurs donc, de présence, Petit traité de l'amour à l'usage des connards, une approche économique de l'amour donc, aux éditeurs éditions L'Harmattan. Lisez-le, c'est vraiment un ouvrage passionnant sur la construction de cette grille de lecture. Même si c'est un ouvrage universitaire, il est véritablement passionnant parce que on est aussi là à présence pour faire une émission littéraire qui est aussi là pour proposer aux gens de réfléchir effectivement sur l'environnement qui nous entoure, ce qu'on a fait. Et je l'espère très bien fait aujourd'hui, Philippe Subercase.
Voilà. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Philippe Benoît, c'est quelque chose aussi qui vous tenait à cœur. Et merci bien sûr à Bertrand.
Merci, à bientôt,
merci
Bertrand.
À vous,
au revoir.
Bon,
au revoir. Au revoir.